Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Jusqu'au déconfinement total, notre émission Par ici des sorties n'a plus lieu d'être, mais la musique reste présente. Personnellement, je ne peux penser la période pascale sans Johann Sebastian Bach, celui que nos amis allemands appellent aussi le cinquième évangéliste. Donc, parlons de l'œuvre que vous allez écouter sur plusieurs émissions. Le clavier bien tempéré. Nous retrouvons Johann Sebastian Bach à l'aube d'une vie nouvelle qui marquera une rupture avec les traditions familiales, une vie longue et riche malgré les peines, les révoltes, mais également la force toujours retrouvée pour continuer. Ça caractérise vraiment Bach. Une vie dans laquelle la famille prend toute son importance, non seulement ses proches, mais aussi l'ensemble du clan. Milieu nourricier dont il restera toujours solidaire. Une tribu qui prendra fin en tant que telle avec la mort de Johann Sebastian. Ses enfants poursuivant des carrières indépendantes en Allemagne et même à l'étranger. Nous vous proposons de découvrir cette vie, la suite de cette vie, afin de mieux comprendre l'énorme héritage musical laissé par Johann Sebastian Bach. Donc avec la deuxième partie du premier livre de clavier bien tempéré, interprété de nouveau par Swatislav Richter, Friedrich Gulda et Glenn Gould. Nous avons quitté Bach à Weimar, où le ciel s'est assombri suite à un différend entre régent et co-régent. Bach a décidé de chercher fortune ailleurs. Il obtient en 1717 le poste de Kapellmeister à la cour de Köthen. Son départ de Weimar n'a pas été sans mal. Il avait demandé congé déjà plusieurs fois au duc de Weimar, congé refusé à chaque fois. Le duc le fait même arrêter et incarcérer pendant 4 semaines, un comble. Mais finalement, le 2 décembre, sa démission lui est notifiée avec une disgrâce publique. La bagarre était vraiment dure avec le nouveau duc. Cet acte de rébellion et le choix par Johann Sebastian d'une activité extérieure à l'église marquent une rupture nette avec les traditions familiales. Il se hâte de quitter Weimar, où il a quand même réussi à faire nommer Schubert, son assistant, comme son remplaçant. Donc, nous sommes en 1717. L'accueil de Köthen, en revanche, est chaleureux. Les fonctions de Kapellmeister du prince Léopold d'Anhalt Köthen s'annoncent agréables et la rémunération est inespérée. 400 thalers, à l'égal des plus hauts fonctionnaires de l'État. Un seul ombre au tableau. La cour de Köthen s'est ralliée au culte calviniste et celui-ci n'admet pas d'autre musique à l'église que le chant des psaumes. Bach sera donc obligé de renoncer, non sans regret, à écrire des cantates d'église et à jouer à l'orgue. Il est cependant tout à la joie d'aborder, dans les meilleures conditions cette fois, la musique concertante. Et puisqu'il n'a encore que 32 ans, il n'est pas trop tard pour commencer une vie nouvelle, n'est-ce pas? L'orchestre de la cour est composé de 18 excellents musiciens. Tous les soirs ou presque, il y a un concert au château. Les répétitions ont lieu souvent au domicile de Bach. Et pour ces soirées musicales au château, Bach compose une grande partie de sa musique instrumentale pendant ces années à Köthen. C'est bien logique. Et on y trouve les concertos pour violon, les concertos qui vont devenir les concertos brandebourgeois, les ouvertures, les suites pour orchestre, les sonates pour clavecin plus un autre instrument et les sonates partita pour violon seul, les suites pour violoncelle seul, et le petit livre pour son fils chéri Wilhelm Friedemann, et enfin le clavier bien tempéré, dont on a parlé déjà depuis un certain temps, mais qui voit le jour à Köthen. Enfin, le clavier bien tempéré est là. Nous y étions déjà arrivés à mi-chemin au prélude des fugues 13 et 14. Maintenant, d'abord, la tonalité de Fa dièse majeur, une tonalité favorite des romantiques pour son expressivité, mais qui mieux que Johann Sebastian Bach a su capter, disons, son arôme subtil, cette lumière tamisée d'une sonorité délicate qui rappelle le clavicorde. N'oublions pas que le clavicorde est l'instrument de prédilection de Bach. L'impression est prolongée par la fugue qui est d'une pure séduction sonore. On va tout de suite poursuivre avec Fa dièse mineur, avec un prélude qui, malgré la tonalité mineure, est gai et plein de tendresse. dans la forme d'un concerto grosso. La fugue est très contrastée, très intérieure, mais sans jamais devenir dramatique. L'émotion reste malgré tout, on peut dire, très contrôlée. Observez par ailleurs les notes répétées du contre-sujet. C'est un trait très typique de cette fugue et qui crée une forme d'insistance très forte. Alors, on va écouter le fa dièse majeur et le fa dièse mineur, donc à chaque fois prélude et fugue, par Friedrich Gulda.
Thank you.
Nous avons écouté Friedrich Gulda dans le prélude et fugue du clavier bien tempéré, premier livre, en fa dièse majeur, puis en fa dièse mineur. Et nous avons laissé Bach à Köthen, où il était nommé récemment. En 1718, Johann Sebastian Bach accompagnait pour la première fois le prince Léopold en son lieu de cure à Karlsbad. Il amène son clavecin, d'autres solistes de l'orchestre de chambre. Maria Barbara reste à la maison. Elle attend un nouveau bébé, le septième, et se sent fort fatiguée avec déjà quatre enfants à s'occuper. En mai 1720, Johann Sebastian Bach, après avoir perdu son petit dernier, retourne à Karlsbad. On ne connaît pas la date de retour. Toutefois, en rentrant chez lui, il apprend que sa chère Maria Barbara, qu'il a laissée en bonne santé, est morte en son absence et a été enterrée le 7 juillet. C'est terrible. Elle n'avait que 36 ans. Sa colossale santé physique et morale le sauve. Bach se retrouve seul avec quatre enfants de 5 à 11 ans. Heureusement, sa belle-sœur Fridelena est toujours là, mais elle n'est plus toute jeune. Donc, malgré l'amour que Bach portait à Maria Barbara, il songe qu'il ne peut pas rester seul avec quatre enfants, c'est impossible. On ignore les circonstances exactes de la rencontre de Bach et de la jeune cantatrice Anna Magdalena Wilke. Elle est fille d'un père trompettiste et d'une mère issue d'une famille d'organistes. Elle a 20 ans et lui 37 quand ils se marient le 3 décembre 1721. L'avenir se présente bien pour Johann Sebastian Bach. Pour sa jeune femme, les perspectives sont bien moins souriantes. Il lui faut beaucoup de courage pour s'engager dans la voie qui lui est offerte. Sa carrière de cantatrice s'annonçait bien. Elle aimait l'opéra et espérait y débuter bientôt. Maintenant, il lui faudrait y renoncer, son Kapellmeister domestique ayant d'autres ambitions pour elle, n'est-ce pas? Elle devra diriger une maison très lourde avec quatre jeunes enfants. Et toujours des convives supplémentaires, des élèves, des parents, des musiciens de passage. Bientôt, Anna Magdalena mettra au monde un enfant par an, avec la même régularité que son mari dans la production des cantates. Au total, elle mettra au monde 13 enfants. Mais elle est admirable, car elle trouvera le temps en plus d'aider son mari. Elle copiera beaucoup de musique, elle chantera pour lui. Elle participa aux répétitions, recevra les visiteurs. Le grand nombre de ceux-ci et leur satisfaction témoignent de la cordialité de l'accueil et de la gaieté que la jeune femme devait mettre dans la maison. Moralement, elle était au-dessus de tout éloge. Les crises et les déboires de la vie professionnelle seront adoucis par sa capacité de créer un climat qui permette à son mari de reprendre et d'aller plus loin. Le seul fait d'accepter à 20 ans une charge aussi lourde démontre la force de son caractère. Alors, la joie débordante que Bach imprime à la tonalité de sol majeur, contrairement au viennois, car Beethoven et Schubert, qui donneraient plutôt un caractère de rêveur à cette tonalité, mais cela illustre bien le climat familial créé par Anna Magdalena. Le prélude tout en joyeux arpèges rappelle le petit livre pour Wilhelm Friedemann. La fugue à trois voix continue l'allégresse. On y imagine Bach joyeux au milieu d'un ribambelle d'enfants et d'élèves. Alors écoutons le prélude et la fugue en sol majeur par Glenn Gould.
Thank you.
avons écouté le prélude et fugue du clavier bien tempéré, premier livre en sol majeur par Glenn Gould. Et nous avons laissé Bach à Köthen, au milieu de ses enfants, de ses élèves, joyeux avec sa deuxième épouse, Anna Magdalena. Alors, en 1722, il entreprend la composition d'un autre petit livre. Cette fois, ce n'est pas pour son fils, mais pour Anna Magdalena. Et il termine sa collection de préludes et fugues, le fameux premier livre de clavier bien tempéré que nous sommes en train d'écouter. Nous avons déjà vu que Bach n'était pas le seul à faire de recherches sur le tempérament des instruments à clavier afin de réajuster les intervalles pour pouvoir jouer dans tous les tons et demi-tons. Il est à ce titre intéressant de noter qu'exactement cette même année, 1722, Rameau, en France, publie son traité de l'harmonie, harmonie réduite à ses principes naturels et qui consacre l'avènement du système tonal. Le prince Léopold de Köthen, patron en quelque sorte du Kapellmeister Bach, se marie à son tour. Hélas, Bach ne tardera pas à apprendre que la nouvelle princesse est totalement indifférente aux arts. Dorénavant, la musique n'a plus sa place privilégiée à la cour. La princesse éloigne même son mari de la musique. Elle a beaucoup d'influence. Bach se sent devenir inutile et voit l'avenir à Köthen de façon moins optimiste. Il en vient à penser qu'il doit partir et se mettre une fois de plus à la recherche d'un emploi. En juin, Johann Kuhnau, cantor de Saint-Thomas, meurt à Leipzig, laissant vacante une charge hautement considérée. Bach hésitera 6 mois avant de poser sa candidature. À Köthen, il bénéficie de la bienveillance de Léopold, même si la princesse n'aime pas la musique. Il est libre, honoré, bien rémunéré. À Leipzig, le revenu de base est très faible, auquel s'ajoutent des honoraires et des gratifications variables, pour le paiement desquels il faudra probablement se battre sans cesse. Anna Magdalena peut mener à Köthen une vie agréable, tandis qu'à Leipzig, les femmes ne peuvent chanter à l'église, et il n'y aura pas de possibilité pour elle de poursuivre sa carrière de cantatrice. La ville n'a plus d'opéra. À Köthen, Johann Sebastian Bach a un patron amical à Leipzig qui devra satisfaire à plus de 20 supérieurs hiérarchiques. Le recteur de l'école, le conseil municipal, le consistoire responsable des services religieux. Et dans l'ordre social, la fonction de cantor est inférieure à celle de Kapellmeister. Mais finalement, il prend sa décision. L'éducation de ses enfants et sa propre carrière l'attirent vers Leipzig. Le 29 novembre, premier dimanche d'avant, il fait entendre à Saint-Thomas la superbe cantate « Nun komm der Heidenheiland ». Il veut en quelque sorte sonder le terrain. Loin de susciter l'enthousiasme, ce noble et religieux chef-d'œuvre est jugé trop théâtral. Mais Bach est admis à poser sa candidature. Théâtral, oui, peut-être comme le prélude en sol mineur. Quoique rien à voir avec les sentiments pathétiques auxquels aspirait Handel dans cette tonalité. Le thème de la fugue provient de l'Ariadne Musica de Fischer, œuvre qui était un véritable tube à l'époque de Bach. Nous y trouvons un caractère robuste mais serein. L'écriture rappelle celle pour un orchestre complet, donc c'est quelque chose de très à la corde. Alors, écoutons le prélude et la fugue en sol mineur par Friedrich Gulla.